RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, bienvenue sur RMC, RMC Story, c'est l'heure de discuter, c'est l'heure de dialoguer, c'est l'heure de débattre, de se confronter, c'est l'heure des GG, des grandes gueules, jusqu'à midi en direct. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules.
Dans les grandes gueules aujourd'hui, Marianne Soubré, avocate, bonjour.
Bonjour à tous.
À tes côtés, le professeur d'économie Thomas Porcher, bonjour monsieur
bonjour
le prof.
Bonjour à tous.
Mehdi Guézard, chef d'entreprise et de la partie aussi aujourd'hui, bonjour mon cher Mehdi.
Bonjour à toi Alain et à tout le monde.
Avant d'évoquer la nouvelle prime carburant de 100 euros par mois pour les travailleurs, un mot quand même sur l'une des surprises encore de ce mondial hier, la qualification du Maroc face à l'Espagne.
Ashraf Hakimi, Yassaïd Ashraf, Yassaïd Ashraf, goal, 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 Allah Yousson, Allah Yousson,
Ashraf Hakimi qui frappe la balle, goal.
Version originale, en version RMC aussi avec l'ami Jeannot Rességuier.
Et pour la petite histoire, Hakimi qui joue au PSG, il est né en Espagne. Il aurait pu être sélectionné par l'équipe espagnole s'il n'avait pas décidé de jouer pour son pays d'origine. Donc c'est ça qui est amusant, c'est un peu l'ironie de cette histoire. Bravo Maroc. Il y a eu beaucoup de monde dans la rue hier pour le fêter ça. Alors malheureusement, il y a toujours des débordements. Je ne sais pas pourquoi quand une équipe gagne, ça dégénère dans la rue. J'ai même vu le drapeau israélien brûler. Je ne suis pas sûr que ce soit très très malin.
Oui.
D'occasion, ça gâche un peu la fête.
Au Moulin, il y a eu un tram dans le quartier des Moulins à Nice, caillassé, un type debout sur le toit d'une voiture avec un flingue. Donc on pourrait peut-être s'en passer aussi, quoi.
Je pense. Mais bravo, bravo Maroc. Alors on rêve d'une demi-finale France-Maroc. Enfin, je sais pas si on en rêve d'ailleurs. On craint peut-être les débordements, mais en tout cas, ça serait une belle affiche.
Marianne.
Moi, je suis contente. Mes enfants ont une grand-mère marocaine. Donc même s'ils sont évidemment totalement pour la France, etc., je pense qu'il y a une partie d'eux aussi qui se réjouit pour le Maroc. Et puis c'est un pays amis, donc on est content. Maintenant, c'est vrai que les débordements, c'est dommage.
Alors, j'ai vu que l'émir du Qatar avait acheté des milliers de places pour le match et qu'il les avait offertes gratuitement aux supporters marocains. Tu suis, ça t'emballe quand même,
ouais,
ce genre de perte face à l'Espagne,
Thomas ? À chaque Coupe du Monde, il y a une équipe surprise comme ça qui arrive en demi-finale, parfois qui gagne. Je me souviens une fois l'Euro, la Grèce avait gagné contre toute attente, ou le Cameroun en 90 avec Roger Milla qui était monté très haut, vous vous souvenez. Donc moi j'aime bien, Et puis comme l'a dit... Marianne, c'est un pays voisin. Ami.
Ça casse un peu la hiérarchie.
Voilà, ouais.
Parce que finalement, ce sont un peu toujours les mêmes.
Il y a une surprise.
Du coup, il y a un peu une reproduction sociale dans le foot. Hein. On a du mal à avoir de nouveaux pays émerger, à part les pays européens et sud-américains.
Il y a des pays historiques du football, parfois leur creux, mais qui sont quand même toujours là. Et là, il y a des surprises comme le Maroc.
Là, c'est une bonne chose. Ils ont quand même éliminé l'Espagne.
Ah ouais.
C'est pas
rien. Championne d'Europe, championne du monde aussi, l'Espagne. Monsieur Mehdi.
Qui n'est pas aussi fort. Écoute, félicitations au peuple marocain. Dernier représentant africain pendant cette Coupe du Monde, donc c'est génial. Ils ont fait un super match. Ils ont un gardien qui est tout bonnement exceptionnel. Moi, leur gardien, il m'a bluffé. Ils ont joué avec le cœur, ils ont joué pour la nation, ils ont joué pour tout un peuple et je pense pour toute une communauté. Et c'est très, très beau. Vraiment, félicitations.
Ils vont aller loin ou pas ?
J'espère qu'ils iront.
Parce que là, c'est le Portugal.
Franchement,
une démonstration de force hier.
Oui.
C'est ça, face à la Suisse.
Alors, excuse-moi, mais
sans Ronaldo. En plus.
Oui, mais le
successeur de Ronaldo, celui qui a pris sa place en titulaire.
Il a claqué trois.
Il a claqué un triplé.
Mais attention, ne comparons pas l'incomparable. L'Espagne techniquement est beaucoup plus fort que le Portugal techniquement. L'Espagne a des bien meilleurs joueurs que le Portugal.
Oui.
Donc si, bah quand même. Donc et je te le dis, c'est quelque chose. Par exemple, la défense portugaise est bien plus vieillissante que la défense espagnole. Maintenant, le Maroc.
Pépé a 39 ans, il met encore un but. Hein.
Ouais, mais il a 39 ans, c'est ça. Alors que quand tu vois l'équipe espagnole, ils avaient une défense de fer. Le Maroc a très très bien joué son coup parce qu'il cherchait les prolongations, il cherchait les pénalties. Le Maroc se basait sur les pénalties et ce qu'ils ont fait, chapeau bas.
Eh bien écoute, à suivre, puisque ce sera maintenant ce sera le prochain match. Ce
les quarts de finale, ça va être
face au Portugal, effectivement, on a de belles affiches qui vont arriver. Bon, venons-en aux choses, et je me dis sérieuses, parce que ça concerne notre quotidien maintenant. La nouvelle prime carburant, ça y est, on l'a pris, 100 euros par mois pour les travailleurs. les plus modestes, enfin ceux qui utilisent le plus la voiture.
Pas forcément modeste.
C'est Madame Borne qui nous l'a annoncé ce matin.
RMC, les grandes gueules.
Et quand Madame Borne, Première ministre, parle et nous donne le dispositif, on l'écoute avec attention.
On va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
C'est 100 euros une fois ou 100 euros tous les mois?
C'est 100 euros pour l'an prochain. Et donc si vous faites, je vous dis, 12 000 km par an, ça représente une remise d'un peu plus de 10 centimes par litre.
Voilà, et il suffira d'aller sur le site des impôts pour obtenir cette attestation.
On est tellement habitué à ces chèques que la journaliste dit c'est 100 euros par mois. Non, mais c'est-à-dire qu'on a perdu complètement le sens des réalités, parce que là, simplement cette aide va coûter déjà 1 milliard d'euros. 100 euros, une seule fois, un chèque de 100 euros, c'est 1 milliard d'euros aux finances publiques. Donc quand le gouvernement nous dit que le quoi qu'il en coûte est terminé, non, la politique des chèques continue. Alors là, ça concerne donc les gens qui sont des rouleurs, hein, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, mais c'est une déclaration sur l'honneur, donc on n'ira pas vérifier. Donc il y aura sans doute un peu de triche, j'imagine. Les gens vont essayer d'en profiter. Ça concerne pas tout le monde, parce que c'est effectivement en fonction de ton numéro fiscal que tu dois envoyer. Donc là aussi, on va calculer précisément. C'est en fonction des 5 premiers décis de revenus, voilà, qui seront concernés. C'est la moitié des ménages. Ouais, ce que dit Madame Borne. Donc elle dit voilà 10 millions de Français.
Donc il y a un impact, il y a un côté revenu et un côté nombre de kilométrages.
Voilà, c'est ça. Sauf que le nombre de kilométrages n'est pas vérifié.
C'est pas vérifiable.
Tu vas avoir une voiture jamais utilisée, il faut simplement que tu fasses une déclaration sur l'honneur que tu utilises ta voiture pour aller travailler. Là on cible, alors qu'avant la ristourne n'était pas ciblée, elle touchait tout le monde. On cible vraiment ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment on apprend que le prix du ticket de métro et du pass Navigo va augmenter. Donc en fait, ça coûte plus cher de prendre le métro. Et ça coûtera un peu moins cher de prendre sa voiture. Il y a des messages contradictoires qui sont envoyés par le gouvernement. Mais on a l'impression quand même qu'il n'a pas le choix. C'est ça, c'est que pour calmer la colère sociale, etc., il faut faire des chèques.
Alors, qu'en pensez-vous de cette aide de 100 euros, déclaration sur l'honneur sur le site des impôts, pour ceux qui sont à la fois les plus modestes et les plus rouleurs? Monsieur Thomas Porcher, ça te paraît un bon dispositif ou pas?
Protéger les 50% des Français les plus pauvres, qui sont ceux qui prennent leur voiture et qui font souvent plus de 12 000 km en moyenne, qui vont faire 20 000 à 30 000 kilomètres par an pour aller travailler, pas pour le loisir, pour aller travailler, parce qu'ils vivent dans des zones loin des centres-villes et loin de leur lieu de travail. Je rappelle qu'en dehors de Paris, on est entre 85 et 90% de taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc on est très dépendant de la voiture, il n'y a pas de transport. Donc là, on est obligé de les protéger. Le problème, c'est qu'après, comment tu fais pour avoir des rentrées fiscales pour compenser ça? Parce que là, finalement, cibler les 50% les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 2000 euros, et ceux qui font plus de 12 000 km, je trouve ça bien de cibler cela, pour plus donner la ristourne à ceux qui vivent à Paris et qui peuvent, eux, prendre les transports. Mais après, il faut compenser ça par des rentrées fiscales. Donc moi, j'irai plus loin. Moi, je pense que plutôt que de faire de la politique de chèque comme ça, qui n'en finit pas, parce que l'inflation va durer plus longtemps que prévu, là.
C'est de l'argent.
Là, il faudrait revoir toute la fiscalité des carburants. C'est-à-dire que là, tu cibles les 50% les plus pauvres, tu leur permets d'avoir un carburant moins cher, mais il y a une partie des Français, il faudrait qu'ils aient un carburant beaucoup plus cher.
Ah oui, toi tu ferais ça.
Bien sûr. Et en premier lieu, par exemple, avec des vignettes comme on a fait à l'époque, tu ressors la vignette là. Mais clairement, tu mets, par exemple, pour ceux qui vivent à Paris, 14% d'utilisation de la voiture pour aller travailler, ce sont ceux qui ont des moyens. Je veux dire, quelqu'un qui vit à Paris qui prend la voiture pour aller travailler.
Il n'y en a plus beaucoup.
14%. C'est rien, mais on peut peut-être les gratter un peu ceux-là. Voilà, parce que ceux-là, en fait, ils utilisent leur voiture, ils vivent sur Paris, ils ont les moyens. Tu leur fais payer eux, tu peux leur rembourser les 100 euros par mois.
Plus des taxes, toi.
Ouais, des taxes.
Ce milliard d'euros, on pourrait pas l'utiliser pour faire plus de 30 par an. Je propose un truc. On va dépenser un milliard d'euros.
Là, tu les soulages maintenant, en janvier. Tu crées des transports, tu les soulages dans 5 ans.
C'est anticipé, c'est pas seulement un échec pour 6 mois.
Comme t'es dans un gouvernement de myopes qui n'anticipe rien, qui fait tout au.
Un milliard d'euros, tu peux faire des travaux avec un milliard d'euros, non? Des métros.
Attends, les mecs, tu leur fais des coupures d'électricité. Le pouvoir d'achat est bouffé par l'inflation. T'as une inflation à 15% sur l'aliment. Et en plus, tu les protège pas sur l'essence, les mecs ils vont remettre un gilet jaune, ils vont être fâchés.
T'as dépensé déjà 7 milliards avec la ristourne.
Je comprends.
Tu dépenses 1 milliard, ça fait 8 milliards. 8 milliards, tu peux lancer une politique ambitieuse de transport en commun.
Mais 8 milliards, tu auras des résultats que dans 5 ans, voire 10 ans.
Ben oui, mais non, c'est mais, ça la politique. Mais,
attends, Olivier, Olivier,
c'est
moi
pas
si
faire des chèques Olivier, pour calmer si, les gens si pour, parce qu'on si a peur qu'ils descendent
attends,
dans la
Olivier,
rue.
Si j'étais aux manettes en 2012, 2011, t'as le président de Total qui a dit l'essence sera à 2 euros, monsieur de Margerie.
Donc là,
moi j'aurais été au pouvoir, je me serais dit, bah voilà, là, il y a de quoi anticiper. Mais on n'a pas voulu anticiper.
Pourtant,
donc,
c'était les écolos et la gauche qui étaient au pouvoir en 2012.
Ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je les connais pas, ces gens.
Non, mais c'est des gens qui nous expliquent qu'il faut décarboner, qu'il faut prendre les transports.
Très sincèrement, alors c'est une usine à gaz de plus et puis 100 euros, très sincèrement, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc moi, 100 euros, ça ne me paraît vraiment pas beaucoup.
On peut faire une pause, s'il vous plaît, parce qu'il y a priorité au direct. Apolline de Malherbe a oublié
la grande Apolline
ses effets personnels en quittant la matinale après son interview avec Madame Pannier-Runacher.
J'ai mis mes chaussures et mon sac, je suis
fière. Tes chaussures, carrément.
Mais qu'est-ce que c'est?
Non mais
que laisser aller.
Non, ce qu'on apprend c'est que ce qu'on apprend c'est qu'Apolline donc
attendez,
est pieds nus le matin,
c'est
à
des tennis en plus. Ouais.
Je suis sur plate, je passe au talon en arrivant là-bas. Salut les GG.
Merci
salut
Apolline.
Apolline. Bon repos et à demain matin à 6h30 sur RMC et ensuite BFM TV pour l'interview de 8h30. Pardon Marianne.
Juste pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu, Apolline de Malherbe est arrivée pieds nus et donc elle avait oublié ses chaussures dans le studio. Oui, alors moi j'ai quand même le sentiment que c'est une usine à gaz de plus, qu'en plus ces 100 euros de toute façon pour ceux qui en ont vraiment besoin ne seront pas suffisants. Et puis encore une fois, on a oublié beaucoup de gens. C'est-à-dire que là, le problème, c'est
2000
que...
2 000 euros, c'est pas non plus gagner 2 500 euros.
Ouais, mais attends, moi qui travaille avec des transporteurs, par exemple, qu'est-ce qui se passe aussi pour les transporteurs, les gens qui dont le métier, en fait, c'est faire rouler des camions, en fait...
Les professionnels de la route.
Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, en réalité?
Ils ont déjà des ristournes, hein,
ils ont des ristournes de telle façon qu'en réalité, il y en a beaucoup aussi qui vont avoir des problèmes, parce qu'il y a ceux qui sont mis à rouler, par exemple, au gaz, parce qu'on leur avait dit que c'était mieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'augmentation du gaz, en fait, et donc il y a quand même aujourd'hui des vraies difficultés qui ne sont pas uniquement les personnes qui prennent leur voiture pour travailler. Et juste un dernier point, parce que c'est vrai que Thomas, tu parlais des gens qui habitent à Paris. Alors moi, je ne suis pas à Paris même, mais je suis en banlieue et j'ai une nécessité d'avoir ma voiture parce qu'en réalité, je travaille de banlieue à banlieue.
Bien sûr.
Et c'est un truc qui n'existe pas.
Ils voudraient te faire taxer davantage là.
Oui, voilà, ils voudraient me taxer davantage alors que moi, je fais banlieue et que j'ai pas de.
En petite couronne, taux d'utilisation, il remonte déjà à 50%.
Voilà.
Quand vous êtes en grande couronne, on remonte à 65%. En grande couronne, le taux d'utilisation de la voiture, il est très proche de celui de la province. Donc non, moi, je suis pour quelque chose de toujours progressif. À partir du moment où c'est progressif, c'est équitable.
Mehdi Ghezard.
Je fais des rentrées, quoi.
Bah écoute, en cette belle journée de mercredi, un foutage de plus dans la gueule du monde. Très sincèrement, 10 centimes, ils enlèvent 10 centimes, ils donnent 1 milliard, ça va leur coûter 1 milliard, à ce qui paraît. Mais en contrepartie, enlever... Cette ristourne de 10 centimes va rapporter 3,9 milliards d'euros pendant l'année 2023 à l'État. Excusez-moi.
L'État gagnant.
Excusez-moi. Je ne sais pas si on est vraiment des excusez-moi l'expression, hein, mais des teubés finis, ou si le gouvernement prend les gens pour des teubés finis.
Pas au calcul, là. Les 3,9, c'est parce qu'avec la hausse des prix des carburants.
Non, parce que quand tu enlèves les 10 centimes que eux ils donnaient, automatiquement, il y a 3,9 milliards d'euros qui va rentrer dans les caisses. Donc, elles ne donnent pas 1 milliard, elles vont en gagner 2,9. C'est le verre à moitié, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est tout.
Elle me dit. La TVA, elle rentre plus facilement lorsque le prix du carburant
augmente. Ben voilà. Donc tu me dis, non. Alors, c'est très beau. Oui, on va aider, je crois que c'est combien de millions de Français?
10 millions
de Français. On va aider, on va leur donner 100 euros. Donc, ça va coûter 1 milliard à l'État. Mais quand la ristourne va être enlevée de 10 centimes, ça va rapporter dans le même temps 3,9 milliards de plus dans les caisses de l'État. Donc l'État, alors, est-ce qu'on est des moutons? Est-ce qu'on est une bergerie? Est-ce qu'on est une ferme? Ou est-ce qu'on est Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas, mais posez-vous les bonnes questions.
Et je rajouterais que quand tu avec tes 100 euros, tu vas faire le plein.
Désolé.
Et l'État récupère l'argent aussi.
Mais oui,
forcément.
Donc, en fait, il donne l'impression de te faire un cadeau.
Mais forcément.
En fait, il récupère ton cadeau.
Mais bien sûr.
Donc c'est du foutage de gueule. Mais il y en a, moi je sais qu'il va avoir des députés, il va avoir des gens qui vont te dire, mais c'est très bien, le gouvernement est près de ses concitoyens et nous aide.
Oui, ce qui serait mieux, c'est que la TVA baisse,
que les charges de l'État baissent sur le carburant.
L'essence, on n'a pas le choix. Baisser la TVA.
Il y a la fiscalité.
Mais Thomas, tu es bien d'accord qu'en période de crise, c'est le seul levier sur lequel tu peux jouer. C'est la seule chose où tu peux stopper l'hémorragie. Non. Eux, ils te disent, on ne stoppe pas l'hémorragie, on va te filer un peu de pognon, mais en attendant, on va en reprendre trois fois plus. Excuse-moi.
Je
sais pas comment vous appelez ça, mais il faut pas être fuite pour pas comprendre.
Et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il n'arrête pas de dire semaine après semaine.
On vous aide.
On ne fait plus de chèques, on va faire autrement, on va essayer de trouver des solutions pérennes. Et en fait, c'est pas les solutions pérennes.
Non, mais t'imagines, les gens vivent avec des primes. Les gens arrivent à vivre avec des primes. Les gens vont travailler avec des primes. Les gens vont bouffer avec des primes. Les gens vont dormir avec des primes. Les gens vont se chauffer avec des primes. Les gens vont se laver avec des primes. Les gens vont travailler avec des primes.
Mais pourquoi justement?
Pourquoi?
C'est un système de fou.
D'après toi, parce que leur salaire normal, leur salaire sur la fiche de paie ne leur permet pas de vivre.
Mais baisse les impôts, le salaire va
alors baisse
les
charges, baisse les impôts. Alors
Thomas, attention.
Tu veux faire le GG7 et match avant. Attention.
Non, mais attention.
Je te vois arriver.
Sur les cotisations, je veux dire, il ne faut jamais oublier, parce qu'on a déjà oublié. En 2007, Macron, il a retiré deux lignes de cotisation sur les salaires, ce qui a réduit l'écart entre le brut et le net. Il y avait les cotisations chômage, et d'ailleurs maintenant, il se rattrape parce qu'il doit les rattraper avec la baisse de l'assurance chômage. Ouais. Mais vous nous avez dit que ça allait être génial. Et ben finalement, les gens, ils se plaignent encore du pouvoir d'achat. Donc cette solution, en fait, de baisser deux lignes de cotisation sociale, ça a été fait en 2017. Je vois pas que les gens soient très heureux puisqu'ils se plaignent encore aujourd'hui.
Thomas, ton système, ce que tu préconises,
mais quel système
aboutit à cette politique d'échec. Comme les gens n'ont pas assez pour vivre, on leur fait des chèques matin, midi et soir pour essayer de survivre.
Mais qu'on récupère d'une autre façon. Pourquoi les gens n'ont pas assez d'argent pour vivre? Parce qu'il y a une inflation à 6% en moyenne, donc à plus de 15% sur l'alimentaire, à plus de 12% sur l'alimentaire, et que les salaires ne suivent pas l'inflation. Donc le salaire réel, le salaire tenant compte de l'inflation, il a chuté drastiquement comme il n'a jamais chuté depuis.
Là, on fait
depuis l'après-guerre.
Il est en train de nous emmener sur la
Après-guerre en France. Donc à un moment, il faut se poser la question. Soit les salaires suivent les prix, soit les
salaires. Qui a mis en place cette politique de salaire modéré? Qui a dit
à partir des années 80, les salaires dans la.
Qui a mis en place ces 35 heures et qui a dit on va vous donner 35 heures, mais il y aura une modération salariale. C'était le deal passé avec les entreprises, tu le sais très bien, Thomas. Le deal passé entre Jospin, Aubry et le MEDEF à l'époque, ça s'appelait pas le MEDEF, c'était de dire on va faire les 35 heures, mais rassurez-vous, ça sera modération salariale. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas payé ça pendant 20 ans?
Non, la vraie. Attends.
Non, mais Thomas, est-ce que j'ai pas raison?
Non, Thomas. Le deal, c'était les gens travaillent moins à salaire égal, mais il y aura de la modération salariale.
Mais c'était le deal qui a été signé pendant les 35
heures. Mais on parlait des carburants, les garçons.
Ramenez toujours à ce qu'a fait la gauche. Je ne fais pas partie du gouvernement, moi. Je ne te ramène pas à ce qu'a fait Macron ou la droite.
Non,
mais il faut arrêter tout de suite. Mais la vraie chute, les salaires dans le PIB, la chute du salaire des PIB, ou la chute des salaires dans la valeur ajoutée, là, on a vu la plus grosse chute, c'est à partir des années 80 où on a désindexé les salaires sur l'inflation. Et après, effectivement, c'est resté stable. Et comme le patronat ne voulait pas réaugmenter les salaires, quand on est passé aux 35 heures, on l'a dit, on va faire travailler moins les gens et on va garder cette même modération salariale. Mais depuis les années 80, la vraie chute des salaires dans le PIB, à partir des années 80.
Alors, il est 9h20, on a lancé la discussion, le débat autour de la nouvelle aide qui est
prévue. Je me suis jamais présenté à une élection, tu me parles tout le temps de la gauche, j'ai jamais fait partie d'un gouvernement.
Non, parce que c'est une politique que tu préconises.
Non,
redistribution.
Alors, c'est parti. Vous avez entendu la nouvelle ristourne carburant, 100 euros par Français modeste qui travaille, qui ne peuvent que prendre leur voiture pour aller bosser. Et les 100 euros, en fait, ils seront versés directement sur votre compte en banque. Donc,
vous les verrez
arriver. Alors, est-ce que c'est un bon dispositif ou pas? Qu'en dites-vous? 32-16 pour en parler avec les GG. Est-ce que l'État est devenu un tiroir-caisse? On vous attend au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les amis, avant de reprendre notre discussion sur l'indemnité carburant avec Benoît qui nous appelle de la Manche, je vous signale que le jeu de Noël est là pour encore plus de 15 jours, là pour ouvrir le coffre de Noël. Vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et deux volants Switch. Ça, c'est le cadeau acquis. Mais si vous me dites « j'ouvre le coffre », vous perdez les cadeaux Switch. Et dans le coffre, vous avez soit la PS5, soit la PlayStation Classic Mini, c'est celle de 94 mais en mini, plus peut-être l'échec du Père Noël, la tirelire du Père Noël, avec entre des bonds entre 500 et 2500 euros. Voilà. Alors, ou vous vous contentez du Nintendo Switch, le jeu Mario Kart, les deux volants, ou on ouvre le coffre avec la Classic Mini de 94 ou la PS5, ou la tirelire du Père Noël entre 500 et 2500 euros.
Les deux derniers jours, c'est pas tombé. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer, là. Moi, j'ouvrirai le coffre.
Moi, j'ouvre jamais le coffre. Moi, je garde toujours ce que je donne.
Tu connais, moi, je suis un épicier.
Je suis gâte-petit. Moi aussi, c'est pareil.
Oui, mais soyons joueurs.
Mercredi, c'est permis.
Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Mercredi, c'est permis. Celui qui jouera, fais-moi confiance.
Olivier dit ça fait deux jours, c'est pas
tombé. Il faut jouer le coffre.
Lui, il tenterait le coffre.
Il y aura un chèque
à la vie à la mort.
Et, nous, on est, et là, ouais, vous avez trois épiciers.
Voilà. Trois épiciers. Voilà. C'est ça la vie. Il y a ceux qui sont les épiciers et puis les autres.
Il y a les cigales et les fourmis.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Bon, allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. M'envoyer coffre par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, on y va. On continue notre discussion sur la prime carburant, la nouvelle qui va arriver. Benoît, bonjour.
Oui, bonjour, comment ça va?
Ça va, mon cher Benoît, vous êtes chauffeur routier, chauffeur poids lourd, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous êtes de quel côté dans la Manche, là, en ce moment?
Là, je suis entre Vesoul et Belfort.
D'accord, ah bah, vous avez bien roulé depuis la Manche, effectivement. Oui. Bon, ça va le boulot en ce moment? Pas trop fatigué, le rythme?
Non, ça va.
Bon, il y a de la demande. Il y a de la demande dans votre secteur, en plus, on cherche du monde.
Oui, ça permet de changer de boîte quand le patron paye pas.
Ah, vous avez raison, vous faites jouer la concurrence. Bon, que pensez-vous de cette prime-là? Est-ce que le gouvernement joue encore les tiroirs-caisses?
Non, on a ras-le-bol. Des chèques, toujours des chèques. On sait toujours qui c'est qui va payer les chèques, qui c'est qui va les toucher. Donc au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Je pense que le plus simple, ce serait de baisser les taxes.
Ben oui.
Donc il va falloir baisser les dépenses de l'État. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points où on peut facilement baisser les dépenses.
Comme quoi, par exemple?
Ah bah, France Télé, Radio France, déjà. ça dégage.
Ouais, mais ça coûte pas tant que ça. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr.
Après, au pire, on garde France 3 et France Bleu pour le côté régional, et encore. Donc voilà. Après, je pense que sur le social, on peut faire des grosses économies.
Comme quoi, par exemple?
Ah bah, moi, je mettrais en place... plafonnement des aides sociales à deux enfants un an après la mise en place de la réforme.
D'accord.
Comme ça, après, les gens, ils font le choix de faire plus d'enfants. Donc, on fait un choix, on assume.
Ouais, sauf qu'en réalité, on a besoin des enfants pour payer les retraites. Donc, c'est pas une bonne idée. Les politiques
pour
de famille, elles servent à ça. Au final, si vous faites pas assez d'enfants... Non, mais si vous ne faites pas assez d'enfants, vous n'avez personne pour payer les retraites. Donc, les allocations familiales, elles servent à ça. Et ça compense, en fait, toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en auront pas, etc. Il vaut mieux. Je veux dire, il y a des gens, ils vont en faire quatre et d'autres, ils n'en auront pas.
Par exemple, Benoît, est-ce que vous êtes. Parce qu'en Allemagne, c'est exactement ce qui se passe. Ils font moins d'enfants, voilà. Donc ils ont beaucoup plus de vieux que de jeunes.
Donc il faut venir de
l'immigration. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution, vous, Benoît? Par exemple, si on fait moins d'enfants, on fait venir l'immigration?
Parce que nous, on fait beaucoup d'enfants, il n'y a personne qui veut bosser, on fait venir de l'immigration pour travailler et on demande à les régulariser parce qu'ils viennent travailler chez nous, parce que les Français ne veulent pas bosser, en fait.
Dans certains secteurs, oui.
Mais voilà. On ne fait pas beaucoup d'enfants.
En tout cas, Benoît, lui, l'aide, il n'en veut pas, il veut que l'État fasse l'État se réforme, que l'État fasse des efforts, que l'État réduise ses dépenses.
La promesse d'Emmanuel Macron en 2017, hein, qu'il a totalement oublié, c'était de faire des économies.
Oui.
On n'a jamais autant dépensé depuis
seulement, que... Seulement, là, tu vois... Parce qu'il y a eu le Covid. Quand même, s'il n'y avait pas eu le Covid, on était
Le Covid, c'est un peu obligé. C'est le gouvernement qui a arrêté lui-même les secteurs d'activité.
Aux gens, vous ne travaillez pas, il faut bien payer.
Mais en fait, dans d'autres pays, ils ont arrêté sans payer. Nous, on a choisi
on a payé plus que n'importe où.
Oui, tout à fait.
Et on a arrêté beaucoup plus que.
Oui, tout à fait. On a choisi.
Je remercie Benoît.
On a même arrêté le nucléaire, c'est ça le problème.
Je remercie Benoît d'avoir été avec nous. Sauf que là, on a une visibilité de stratégie politique sur quoi? Sur un mois, deux mois. Ouais. Enfin, tu vois, on fait un chèque, et puis à un moment, ce chèque, il va s'arrêter aussi.
Toi qui es épicier, tu devrais aimer cette politique d'épicier.
Non.
Ah ben non, parce que si tu veux, l'épicier, lui, il est constant, il est au centime près, il fait jamais de cadeaux, jamais de chèque, il regarde toujours.
Il n'y a même pas d'ardoise.
Ma bonne dame, c'est difficile, et puis n'oubliez pas, la maison ne fait pas crédit. Tu sais, c'est écrit derrière, effectivement. Donc là, on ne voit pas après la prochaine aide, quelle est la stratégie. Mais est-ce qu'il faudra. Parce que.
On achète la paix sociale, là.
Parce que l'inflation va être là l'année prochaine. Oui. On est d'accord.
Il y a des chances, oui. Tant que le conflit avec l'Ukraine et la Russie n'est pas réglé complètement et qu'il y a encore des confinements en Asie, il y aura de l'inflation.
Le carburant peut baisser parce que si la croissance, là, je parle à un économiste, mais si la croissance est moins forte, donc la demande en carburant sera moins forte en pétrole, donc on peut imaginer que le prix du pétrole quand même baisse.
Tout à fait.
On retrouve, alors peut-être pas les niveaux très bas, mais d'ailleurs le baril quand même va baisser.
Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, tant qu'il y a quand même un problème avec la Russie qui produit 10 millions de barils par jour, c'est-à-dire l'équivalent de l'Arabie Saoudite, hein,
eh ben, il y aura de la spéculation. Parce que tu sais, l'offre et la demande est tellement proche sur ce marché-là que tant que tu as un opérateur important qui est touché, tu as des mecs qui spéculent. Mmh. Et donc les prix, même s'il y a une plus faible croissance, les prix sont toujours orientés plutôt à la hausse. Mmh.
Nous sommes avec Fabrice qui nous appelle de Gironde. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous, bonjour les gondoles.
Conducteur de bus. Alors mon cher Fabrice, bonjour, que pensez-vous de cette aide?
Non, mais, les aides, comme disait l'interlocuteur avant, c'est bon, ça suffit, stop. Stop les aides, j'en peux plus moi. J'en peux plus. Quand est-ce qu'on va régler les vrais problèmes de ce pays, quoi? C'est-à-dire, faut creuser, faut arrêter, balancer des chèques. Certes, il y a des gens qui en ont besoin, mais je rappelle une chose, un centime à la pompe d'augmentation, c'est 500 millions par an dans les caisses de l'État.
Ah, donc c'est merci. Merci quelqu'un enfin de taxe, réveiller de ce matin et qui dit des choses vraies. Merci monsieur.
Un centime donc, de taxe en plus.
Allez-y Fabrice.
Mais c'est qu'un juste retour des choses.
Non mais attention, elle va nous donner 100 euros pendant un an pour 12 000 kilomètres. Non, 100 euros une fois pendant un an pour 12. Mais c'est une prime. N'oubliez pas, il faut marteler ça dans le cerveau des gens. C'est une prime. Voilà, vous imaginez, c'est tellement
Est-ce que vous allez la demander, Fabrice?
C'est pervers comme système, parce que en fait, c'est comme si on était en train d'attendre constamment des aides et des cadeaux et des chèques et des. C'est incroyable. On dirait qu'on a une carte de fidélité avec l'État et à chaque fois on doit mettre des miles et à chaque fois on a des primes.
Dites que c'est pervers,
c'est comme ça.
Parce que c'est
malsain. Parce que c'est malsain, exactement.
Allez-y, Fabrice.
Je pense pas que ce soit la bonne solution. Je veux dire, Total, c'est une entreprise française, ça fait des milliards de bénéfices. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler. Gouverner, c'est prévoir. Penser une jonque de bois avec des rustines comme l'on fait là, avec des petits sparadrains, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si ça servira à diviser les gens qui travaillent, ceux qui en ont plus besoin, le pays va mal.
Attendez 2023. Hein. Vu ce qu'on va se prendre dans la gueule, Fabrice, en 2023, ça va aller encore plus mal. Les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, moi, j'ai des fournisseurs à moi. Là, ils me le disent directement dans la gueule, c'est leur dernier bilan.
Ouais.
Là, ils font 31 décembre, ils font leur bilan. Non, mais c'est honnête. Ouais. Et j'en ai pas que deux ou que trois. Hein. J'ai 5-6 fournisseurs qui me disent, Mehdi, l'année prochaine, on sera pas là. Non, mais on bosse pas.
Et là, je suis d'accord avec Mehdi. 2023 va être catastrophique. Parce que,
c'est terrible, ce qui se passe. Les gens sont en garantie.
Tu vas voir la réalité des.
Ah oui.
Et là, il y a plein d'entreprises qui vont chuter.
Mais là, ils ferment. Thomas, ils ferment. 31 décembre, ils
vont fermer. Donc, ça va affaiblir les fonds propres des banques. Exactement. Parce qu'après, il y a toujours un truc sur les banques. Ouais. Et là, le système bancaire, il se prend un choc quand même assez fort.
Il va se prendre une baffe.
Et donc, ça risque de faire des déséquilibres en chaîne.
Mais non, tu auras une prime de 50 euros pour ça.
Et puis, la BPI, elle garantissait un certain nombre de prêts garantis. Ouais. Mais si les dossiers étaient bien faits, il y a beaucoup de dossiers qui ont été faits à la va-vite. Et en fait, là, il dit, il y a un défaut sur le dossier, la BPI ne veut pas rembourser.
Mais là, pour revenir à cette aide, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous faites partie de ceux qui pourraient toucher l'aide, Fabrice, justement?
Non, honnêtement, je ne pense pas, parce que, bon, j'ai de la chance d'avoir un travail, je suis quand même bien payé, je suis un peu. Alors, je ne roule pas sur l'or, hein, mais si je fais 1800 euros par mois, voilà, je suis payé sur 14 mois, je ne me plains pas, j'arrive à subvenir à mes besoins.
1600 euros, vous touchez la prime, normalement?
A priori, vous serez concerné. Mais voyez, vous n'allez peut-être pas le faire parce que moi, je pense que le gouvernement parie en plus. Il y a beaucoup de Français qui ne seront pas au courant qu'il y a un prime, qui ne seront pas concernés, qui oublieront d'envoyer parce qu'il faut envoyer quand même la demande. Il faut faire une lettre sur l'honneur. Il faut envoyer son revenu fiscal, enfin son numéro fiscal. Moi, je pense que quand Madame Borne dit 10 millions, alors il y aura peut-être des gens qui vont tricher, mais est-ce qu'on va atteindre les 10 millions?
Il y a un tiers des gens qui ne touchent pas leur RSA déjà.
Là où Fabrice a raison, c'est qu'en réalité, on ne joue que par à-coup, en fait, par petites touches de un chèque, une prime, un truc, un machin, et qu'on aimerait tous qu'il y ait une politique à long terme, en fait, qui ait vraiment une perspective. Et c'est vrai que moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, ce sont juste des diffuseurs d'annonces, en fait. Elisabeth Borne a dit, regardez, je viens, je vous donne 100 euros. Là, elle viendra dans 15 jours, elle va dire autre chose. Elle va annoncer une autre petite mesure pour je ne sais qui, une autre catégorie de la population. On n'a pas de vision à long terme de choses qui nous permettraient de nous dire, bon, on va effectivement avoir des moments durs en 2023, mais il y a une perspective.
Fabrice, je vous pose la question vérité. Si jamais vous étiez éligible à cette prime, est-ce que vous la demanderiez?
Bien sûr, parce que je trouve que c'est une grande hypocrisie là-dessous, parce que le baril de Brent n'est pas si haut que ça. Je veux dire, il n'est pas en 2008 à 120 ou 130 dollars.
C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Il est à 80, je crois.
Non, mais le taux de change n'est pas le même parce qu'on l'achète en dollars et on achète avec l'euro en dollars.
Mais il n'y a pas 30% de différence.
Allez-y, Fabrice.
C'est ramasser de l'argent sur les petits gens, les gens qui ont besoin de prendre leur carburant pour aller travailler. Moi, je fais 50 km par jour, 25 allers, 25 retours. Je suis conducteur de bus, je finis tard, je travaille tôt, j'ai des horaires décalés, je suis obligé de prendre ma voiture. Alors, si vous voulez, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a des gens qui se lèvent tôt, il n'y a pas de transport. Il faut, les premiers collègues, ceux qui arrivent à 4h du matin, ils ne prennent pas le bus à 3h30, il n'y a rien, ils sont obligés de prendre leur voiture. Il y a des gens qui habitent de l'autre côté du bassin d'Arcachon, qui prennent leur voiture, qui font 30, 40, 40 km, 50 km pour venir travailler. Ils sont obligés. Alors, balancer une pièce de 100 euros, c'est super, mais ce n'est pas la bonne solution. Arrêtez de balancer des trucs comme ça et faites un travail en profondeur avec les pétroliers et avec quelque chose de vraiment optimisé sur le prix du carburant. Parce que c'est une grande hypocrisie de nous faire rouler en électrique et de dire « Ah oui, non, mais l'électrique, c'est ce qu'il y a de mieux » alors que le prix du kilowattheure augmente, explose, parce qu'on n'est pas capable de gérer nos centrales en France. Qu'on exporte notre électricité, ce n'est pas normal. Ce pays marche un peu sur la tête. Nous utilisons.
Mais oui, mais parce que Fabrice, on ne planifie rien, je suis désolé. On préfère faire des chèques qui vont nous coûter, si on additionne, on est à 8 ou 9 milliards hein, pour le carburant. C'est 9 milliards d'euros qu'on aurait pu utiliser sur une politique de transport, etc. C'est cette politique des chèques et je ne réagis qu'en cas de crise. On dit Macron, c'est l'homme des crises. Bah oui, mais parce que c'est des crises qui ne sont pas anticipées.
C'est pas l'homme de la planification.
C'est pas l'homme de la planification et surtout de la cohérence. C'est ça le problème.
Alors, on avait nommé quelqu'un à la planification. Important.
Ça s'appelle François Bayrou.
Allez-y,
quelqu'un des nouvelles.
Allez-y, Fabrice, pardon.
Les amis, moi, je passais l'ENA, je passais Sciences Po, j'ai passé Normal Sup, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr quotidien pour comprendre qu'il y a des leviers à actionner pour optimiser le carburant, l'électricité et des choses prévoir à 5, 10 ans, 15 ans, pas maintenant.
Fabrice, moi non plus j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait Maths Sup, Maths Sp, j'ai pas fait tout ça. Mais par contre, je sais une chose, c'est que sur la prime de 100 euros qui vont verser sur les comptes de certaines personnes, de 10 millions de personnes, il faut pas oublier qu'ils vont récupérer 60 euros. Donc en fait, ils donnent réellement que 40 euros parce qu'il y a 60% de taxes sur le carburant. Donc j'ai pas besoin de faire Bac+8 pour comprendre ce calcul rapide.
Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. On regarde la question, le résultat de la question qu'on vous posait là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un État qui devient une espèce de tiroir caisse? C'est un on ouvre, on ferme le tiroir, on ouvre, on ferme le tiroir. C'est oui à plus de 81%. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on s'en fout, on s'en fout pas. Et puis on va voir quelle grande gueule de l'année nos GG ont sélectionné. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Avec l'avocate Marianne Soubré, nous sommes avec le professeur d'économie Thomas Porcher. Mehdi, tes portables, s'il te plaît, je dis bien tes portables, parce qu'il en a, deux et qu'il ne les lâche jamais. Marianne Soubré, maître, votre portable. Il y a un disciple.
Je bosse ici,
c'est monsieur Porcher, effectivement, qui fait très attention. Tout à l'heure à 10h, on va demander à nos grandes gueules qui elles veulent élire grande gueule de l'année. 10 personnalités sur rmc.fr. Comme chaque année, c'est vous qui choisissez. Volodymyr Zelensky, le président résistant, le collectif écologiste Dernière Rénovation et ses actions coup de poing. Fabien Roussel, le communiste qui vante la gauche du travail et pas des allocs.
Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui préfère prendre un jet pour aller faire un match que le char à voile.
Louis Boyard, seul contre tous sur le plateau de Cyril Hanouna. Rachida Dati, la reine des punchlines dans les soirées électorales.
Michel Sardou qui en peut plus de son époque, c'est de la merde.
Et Sandrine Rousseau, l'écoféministe. Michel-Édouard Leclerc qui prévoit un tsunami d'inflation.
Et l'actrice Annie Dupéret qui exhorte le gouvernement à réintégrer les soignants non vaccinés.
Alors vous votez sur internet rmc.fr, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Et puis nos grandes gueules vous donneront leur choix tout à l'heure à 10h. Et pour aller sur le site internet, là, si vous êtes devant RMC Story, vous attrapez votre portable. Vous savez comment vous faites, vous visez le QR code et ça vous renvoie.
Portable, il faut que je.
Et ça vous renvoie directement sur la liste des sélectionnés. On y va pour le
hors-site. Je vais voter moi aussi.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Alors on connaît le montant du loyer du logement du couple Macron à l'Élysée. Bel appartement de fonction en plein cœur du 8e arrondissement de Paris, 100 mètres carrés, sans vis-à-vis, quartier bien desservi et plutôt ultra sécurisé. Combien vaut ce bien locatif, les GG à l'Élysée, à votre avis? Bah, dites un prix, 100 mètres carrés en plein cœur du 8e,
4 000.
La valeur locative.
4 000 euros.
Non, un peu plus, entre 4 500 et 5 500
euros. Bon, ce sera à peu près les prix du marché, effectivement. 2153 euros, soit bien moins que la valeur du marché, où tu n'as que 60 mètres carrés pour ce prix-là.
2153 euros.
Et pas dans les beaux.
C'est ce que déclare Macron.
En tout cas, alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ah, on s'en fout complètement.
Thomas?
Oh, on s'en fout pas.
Mehdi?
Je m'en fous, oui.
Thomas?
Bon, on s'en fout pas parce que c'est bien de voir ô combien nos politiques, même des députés à l'Assemblée, sont complètement déconnectés sur les prix de l'immobilier, soit parce qu'ils ont des apparts de fonction, soit parce qu'ils vivent dans des HLM. Et c'est bien de que les gens sachent ça parce que c'est révoltant.
Et c'est réintégré dans les impôts du président.
Non, mais
c'est
d'accord.
C'est oui, considéré comme un logement de fonction.
Exactement.
Hein.
C'est
sous-évalué.
C'est ceux qui n'ont pas besoin d'avoir finalement d'aide qui en ont plus que ceux qui en auraient besoin.
Bon, enfin, moi, honnêtement, ça me choque pas que le président soit logé. Enfin, je veux dire, oui, c'est quand même la moindre des choses.
Il paye beaucoup moins d'argent sur ce
oui, mais c'est pas ça la question. La question, ouais, c'est qu'il sous-évalue le montant de son loyer.
Mais fut un temps où on le faisait pas. Enfin, je veux dire, où personne.
Eh ben, tu crois,
allons chercher les déclarations d'impôts de François Mitterrand. Tu crois vraiment que François Mitterrand irait intégrer la part de son logement
mais le général de sa maîtresse, c'est pas dur. De sa maîtresse. On a régressé en la matière. On est parti du premier président de la 5e République qui payait ses factures. C'est le contraire, Marianne. On a bien commencé et ça s'est dégradé ensemble.
On va pas lui reprocher de faire un truc que tous les mecs avant lui n'ont pas fait.
Non mais moi j'ai une question, est-ce qu'il touche les APL?
Tu crois que Jacques Chirac il l'aurait intégré? Tu crois que Nicolas Sarkozy l'aurait intégré?
On aimerait tous avoir le même prix au mètre carré. Hein,
non mais d'accord.
Oui mais est-ce qu'il touche les APL?
Moi si tu trouves à 100 mètres carrés dans le 8e pour 2000
est-ce
euros,
est-ce que Emmanuel Macron touche les APL pour ça?
Là c'est de la pure démagogie, franchement.
Non, on continue.
Les GG, 40% des 18-34 ans avouent télétravailler en pyjama. Non, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Mehdi, il est mort de rire.
Je sais pas, Anaïs, on te pose la question.
Est-ce qu'on travaille en pyjama? Pas et je ne suis pas en pyjama. Thomas,
je vais dire on s'en fout, mais je voudrais rajouter un commentaire.
Marianne,
on s'en fout.
Aujourd'hui, je mets un petit commentaire de Thomas.
Non, je trouve que c'est plutôt une mode. Et moi, je trouve ça agréable. Moi aussi, je privilégie aujourd'hui le fait d'être à l'aise dans des vêtements plutôt que l'aspect.
Bah, carrément.
Voilà, tu viens en pyjama dans les grandes villes.
Là, je fais un effort quand je viens vous voir. Mais quand je suis chez moi.
Mais est-ce que tu pourrais, par exemple, si on te propose un Skype, tu sais, est-ce que tu pourrais te dire je suis pas en pyjama, mais je le fais en survêt, et puis si ça se voit pas trop.
Non, je fais pas, mais en bas, c'est toujours.
Il est à poil, en bas.
En bas, c'est toujours des
contrats.
Moi, mon mari,
elles
sont quand même son jean de télétravail qui est complètement troué, en fait.
Ouais,
c'est ça, il ne le met que pour télétravailler.
Si tu mets un jean de télétravail, c'est comme si tu restais en pyjama.
Oui, c'est pareil.
Ouais, je crois que c'est la mode. Désespère. Non,
il dort en costume. Élégant, il dort en costume, mais ouais.
Non, non, le même costard, tout. Toujours en bas.
Ah non, jamais. Non, jamais. J'ai beaucoup de costards, hein, pas le même. Mais pour moi, le télétravail, déjà, c'est une forme où tu peux un peu te relâcher, quoi. Donc, si t'as pas besoin obligatoirement d'être tiré à quatre épingles.
On continue, Anaïs.
Le pass Navigo coûtera 84,10 € par mois en 2020.
On s'en fout pas.
En un an pour un service.
Personne s'en fout.
Écoutez-moi, 12% d'augmentation en un an pour un service, effectivement, qui se dégrade de plus en plus. Mehdi, tu ne t'en fous pas?
Horrible.
Thomas?
Je m'en fous pas, oui.
Je m'en fous pas non plus.
Quoi, Mehdi?
Tu sais, tu as une part des entreprises pour payer déjà le pass Navigo, donc oui. Nous, on va augmenter nous cette part-là.
Oui, pour les entreprises, mais c'est plus d'argent aussi.
C'est plus d'argent à dépenser, mais bon, ça, on s'en fout, parce que les entreprises, c'est toujours des mauvaises entreprises, des mauvais patrons. Mais c'est horrible. C'est horrible, parce que moi, j'ai des gars qui viennent tout le temps en retard, qui m'envoient des captures d'écran. Tu sais que maintenant, les pauvres, c'est que je leur dis, c'est bon, les gars, je vous crois. Arrêtez de m'envoyer, parce qu'il est 8h, 8h15, 8h30, 9h moins quart. Je reçois minimum par jour entre 5 et 7 messages sur WhatsApp en disant, regarde, c'est pas de ma faute. Et ils te prennent en photo le monde, ils te prennent en photo l'écran qui te dit, panne technique, panne je sais pas quoi.
Oui, c'est l'enfer.
C'est comme si tu me disais,
tu vas payer plus cher.
Tu vas payer plus cher, mais tu seras encore dans la merde. Ce sera encore un service de merde et tu vas fermer ta gueule et tu vas payer. Voilà.
Et je rajouterai qu'au moment où on nous dit qu'il ne faut pas se servir de sa voiture, etc., d'abord, l'essence augmente, c'est pas écolo de se servir de sa voiture, mais on va nous augmenter en même temps, alors qu'on est censé utiliser prioritairement les transports, on nous augmente le prix du pass navigation.
Achète-toi un vélo à 3000 euros.
Mais électrique, bah, bravo, électrique voilà. Que tu vas charger.
Voilà. Parle comme Paris en commun.
En heure creuse.
Attention. Faut préciser que ça a pu être pire et que Valérie Pécresse a gagné son bras de fer, contre l'État, parce que l'État fait un chèque de 200 millions d'euros
de plus
pour que le pass navigation ne soit pas à 100 euros, mais à 84 euros.
C'est vrai que Valérie Pécresse s'est battue et montée au front pour ça. Vrai, bravo elle.
On continue.
Les GG, la première ministre dépasse-t-elle les bornes?
C'est vrai.
Elisabeth Borne prise encore en flagrant délit de récidive de vapotage à l'Assemblée nationale. C'était hier, petit vapotage discretos derrière le masque, parce que oui, ils portaient tous le masque hier à l'Assemblée. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Je rappelle qu'il est interdit de vapoter, que ce soit au Sénat, au Palais Bourbon.
Dans les lieux de travail.
Les lieux de travail. En Conseil des ministres, on l'avait vu aussi vapoter à côté d'enfants, c'était interdit. C'est 35 euros d'amende. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Thomas?
Non, on s'en fout pas parce que c'est le savoir-être. Moi, après, en cours, je vais avoir un étudiant un jour, il va vapoter comme ça. Déjà qu'il y en a qui dorment. Moi, quand je vois un étudiant qui dort en cours, je dis toujours aux autres élèves, réveille-moi l'élite française là, parce que toi ils n'ont pas plus de 4. Et j'ai tu me réveilles.
Tu te dis pas que ton cours peut-être.
Non. Je dis écoute,
non,
parce que je dis le minimum de respect.
Non,
parce que je dis justement, dans la vraie vie, il y a plein de trucs qui t'endorment, qui font chier. Mais le respect, c'est justement de faire comme si ça t'intéressait. C'est ça le minimum de respect.
Bien sûr.
Et donc là, t'es à l'Assemblée,
les
ministres, t'es bien payé, tu sors, tu prends ta place.
La première ministre, merde. Non mais c'est elle qui respecte pas les lois, mais qui va les respecter.
Voilà. Après,
mais excuse-moi,
les mecs qui veulent fumer sur le quai.
Moi je suis addict, il y a quelqu'un qui est addict comme moi, pendant 3 heures je fume pas.
Tu fumes pas sur un plateau.
Je vous allume une clope, je vais vous dire quoi, je suis addict, vous allez vous taire. Non mais arrêtez. C'est quand même la première ministre de France.
En plus elle fait ça à l'Assemblée.
Et elle fait ça devant tout le monde.
Mais c'est vraiment
le terme j'emmerde la République, c'est ça quoi.
C'est se croire au-dessus de tous les règlements quoi et de toutes les lois. Mais je ne comprends même pas que ça lui traverse l'esprit et qu'elle ose le faire. Enfin, je veux dire, non, mais addict ou pas addict, moi, j'ai été aussi.
On est gouverné par quelqu'un qui est sous influence de la vapoteuse.
Je suis désolée.
Marie a raison, je vais commencer à fumer sur le plateau.
Non, mais c'est du délire.
Je vais vous dire, je suis addict, je suis désolée.
Mais Macron devrait la recadrer.
Attention, Marianne, fini.
Non, mais c'est absolument incroyable qu'elle se sente autorisée à faire ça.
Présidente de l'Assemblée.
C'est incroyable. Mais elle devrait la virer.
Il y a une présidente de l'Assemblée. Qui aime bien faire la police lorsque l'opposition parle.
Ça serait bien
que Madame Yaël Braun-Pivet.
La mette dehors.
Madame la Première ministre, vous éteignez la vapoteuse, sinon dehors.
Et que Macron la recadre. Parce que Macron, il donne l'impression, je vais vous dire, avec tout ce qui se passe, avec Madame Pannier-Runacher et son affaire d'enfants qui ont des actions, etc. Enfin bon. On a l'impression, en fait, que quand t'es au gouvernement, que quand t'es très riche, tout est permis. On a l'impression que c'est ça. Et là, t'es à l'Assemblée. Oh, vous n'allez pas faire un truc, elle fume. Oh, ils ont fait une fête pendant le confinement, c'est rien. Ouais. Oh, les enfants, oh, c'est rien. Rien n'est grave.
Sans parler de Caroline Cayeux avec ses. Enfin, c'est bien absolument. Oui, elle a dégagé, mais elle a dégagé alors qu'elle avait tenu des propos homophobes, etc.
Mais il ne faut pas déclarer son patrimoine.
Sous-évaluer, en fait.
Il ne faut pas sous-évaluer son patrimoine.
Tout ça,
Tout ça veut dire, en fait, c'est pour ça que ça rejoint le loyer
déconnecté
de Macron.
De la réalité.
Le loyer de Macron. C'est-à-dire que tu sous-déclares. Enfin, les mecs, on dirait qu'ils vivent dans une galaxie parallèle. Et après, ils s'étonnent. Ah, mais toi, tu payes 1000 balles pour être dans 35 mètres carrés. T'es fâché. Pourquoi t'es fâché?
Les GG demandent un rappel à l'ordre Madame la Première ministre solennelle. Par Madame la présidente de l'Assemblée nationale, il est interdit de vapoter sur le lieu de travail. Nous, c'est très strict.
Ou alors, je vais fumer ici.
Dans les locaux, ou alors, on va se mettre tous à cloper, effectivement.
On n'a pas le droit de vapoter ici, dans ce bâtiment.
Mais non.
Allez, dans un instant, la colère d'Emmanuel Macron, du président, face au scénario de la peur. Les scénarios des coupures, c'est pas pour moi, dit-il. Stop, on raconte n'importe quoi. Venez en parler avec les GG. Et tiens, ces scénarios-là, maintenant, est-ce que vous y comprenez quelque chose maintenant au scénario des coupures? On vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.